RCI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Besançon.
Ici matin, jusqu'à 9h, Loïs Paton, Anne Fauvarc.
Il est presque 7h40, l'heure de la nécessaire minute comptoise d'Arnaud Fromage, que je ne vois pas pour l'instant. Arnaud, vous êtes là? Je vous sors du lit là, il faut vous réveiller maintenant, hein. c'est l'heure de la chronique là.
Vabandoust, et Untnegin. Pardon, je rêvais. Puis c'était très bizarre parce que dans mon rêve, je parlais super bien estonien. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il paraît que c'est pas si rare de rêver dans une langue qui n'est pas la nôtre, voire même d'une langue que vous ne connaissez pas du tout, comme moi avec l'estonien. Et ça porte un nom d'ailleurs, ça s'appelle la xénoglossie. Et sur le site de Babel, l'un des sites qui propose des cours de langue en ligne, eh bien j'ai trouvé un article à ce propos. Alors il y a plusieurs types de xénoglossie. L'article prend l'exemple de quelqu'un qui avait reconnu de l'hébreu dans son rêve, mais en cherchant bien, il s'était souvenu qu'il avait fait quelques cours d'hébreu quand il avait 13 ans et que c'était probablement de là que ça remontait. Mais il est tout à fait possible de rêver dans une langue qu'on ne connaît pas du tout. Notez qu'on peut aussi penser que c'est cette langue-là, alors qu'il n'y a pas un mot qui est bon, c'est juste nous qui inventons un charabia en se disant que ça doit être du malgache ou du portugais.
Mais il y a aussi des cas cliniques beaucoup plus rares et plus impressionnants, hein.
Oui, qui se déclenche généralement après un accident grave ou un AVC. Par exemple, en 2015, en Chine, une ancienne prof d'anglais retraitée, âgée de 94 ans, est victime d'un AVC. À son réveil, après 2 semaines de coma, elle a totalement oublié le mandarin, sa langue maternelle, et ne parle désormais plus qu'anglais, qu'elle n'avait plus pratiqué depuis 30 ans. Autre cas, et cette fois c'est l'inverse, ça se passe en Australie. Un jeune homme de 21 ans, victime d'un accident de la route, se réveille à l'hôpital en étant totalement incapable de parler anglais. Il ne se souvenait plus que du mandarin qu'il avait étudié à l'école quelques années avant. Détail amusant, il est par la suite allé en Chine, où il est devenu présentateur d'une émission de télé sur place. C'est dire son niveau.
Ah bah dis donc, mais Arnaud, il y a une explication rationnelle à ça ?
Pour le cas des rêves, l'explication la plus plausible, c'est que le subconscient aurait retenu quelques bribes d'une langue sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte consciemment. De quoi appeler Freud au secours. Pour les cas cliniques de gens ayant totalement oublié leur langue maternelle après un choc, l'explication se niche dans la latéralisation du cerveau. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a 2 hémisphères là-dessous. Or, notre langue maternelle est stockée dans l'hémisphère gauche du cerveau, quand les langues que nous apprenons par la suite sont stockées, elles, dans l'hémisphère droit. Ainsi, si la partie gauche du cerveau est atteinte par une lésion quelconque, dans certains cas, il est possible d'oublier sa langue maternelle. Vous ne vous souvenez plus alors que de celle qui se trouve stockée dans l'autre hémisphère, l'hémisphère droit qui n'a pas été atteint. Ça reste néanmoins fascinant et impressionnant, heureusement que c'est très rare. Mais voilà en tout cas un nouveau mystère du cerveau résolu et sur ce, moi je vais me recoucher. Allez, omenaeme, ça veut dire à demain en estonien.
Ah bon, eh bien bonne nuit, j'ai envie de vous dire. Hein. Arnaud, ça me donnerait presque envie de bailler, c'est pas très gentil. Et j'espère qu'il m'arrivera rien parce que si je dois parler anglais toute ma vie, autant vous dire que ça va être très difficile parce que l'hémisphère droit n'a pas retenu grand chose en anglais. La nécessaire minute côtoise, les infos insolites mais des fois très intéressantes, hein, comme ce matin. À réécouter à tout instant sur l'application ICI et puis également sur ICI.fr Besançon.
ICI, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Héros.
Le 30 octobre 1812 à Montpellier, le préfet de l'Hérault, Pierre Barthélemy Joseph, comte de Nogaret, a mis les petits plats dans les grands. Il organise un mirifique dîner pour faire plaisir à ses hôtes, mais surtout à un hôte, le comte de Borroméo, qui va intercéder en sa faveur auprès de l'empereur Napoléon pour le faire grand croix de la Légion d'honneur. Sa délicieuse épouse, Marie-Julie Boudon de la Roquette, a fait préparer des dindonneaux aux truffes et de la croustade de bécasse. On est nickel, les invités arrivent, parmi lesquels le fameux comte de Borroméo, général des armées, accompagné de son état-major. Il est en uniforme, il a des favoris noirs très beaux, il raconte aux invités ses faits d'armes, cette soirée est extrêmement réussie. Et là, bam ! La porte du grand salon de la préfecture s'ouvre en grand. Le commandant de la gendarmerie déboule avec une dizaine de ses agents et se rue sur le comte de Borroméo. Monsieur le préfet hallucine. Madame la préfète Marie-Julie Boudon de la Roquette tape une crise de panique. Ses copines l'éventent et le comte de Borroméo est arrêté. Le comte de Borroméo, en vrai, il s'appelle Anthelme Collet Et avant d'être général, et avant d'être comte de Borromeo, il a été sous-lieutenant, déserteur, missionnaire dominicain, marquis, abbé à Gap, où il a tapé 80 000 francs à ses fidèles, évêque sous le nom de Monseigneur Don Pasqualini, puis faux lieutenant, chanoine honoraire à Saint-Augustin, avant de, enfin, devenir le général comte de Borromeo. Ce qui lui a permis de taper dans les caisses d'argent public par-ci par-là pour, prétendument, organiser l'armée de Catalogne. Et juste pour que le tableau soit complet, en 1812, Napoléon, il était en train de galérer au fin fond de la Russie. Vous voyez, je pense qu'il avait peut-être potentiellement d'autres choses à gérer que faire grand croix de la Légion d'honneur le préfet de l'Hérault. Ah non, attendez, stop, pousse, c'est pas fini. Donc il fout Anthelme collé en tôle, hop, au cachot, pendant 3 semaines. Et notre préfet, un gros malin, décide de sortir Anthelme collé du cachot pour le présenter à ses invités lors d'un autre dîner, histoire d'amuser la galerie. Ils le mettent dans la cuisine, Anthelme collé est seul. À la porte, il y a 2 gardes. Il avise une tenue de cuisinier, un gilet rond, un tablier, un bonnet blanc. Il enfile tout ça. Prend 2 plats, hop, un dans chaque main, met un coup de pied vigoureux dans la porte de la cuisine, genre « je suis pressé, ok, il y en a qui bossent ». Il passe devant les 2 gardes et le voilà libre.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Orléans.
Marius, Orléans, 19 ans.
Marius, vous avez une passion toute particulière, les venelles d'Orléans.
Une venelle, c'est une petite voie où une personne peut passer à vélo ou à pied, et souvent c'est gravillonné ou avec de l'herbe.
Pourquoi vous y êtes tant attaché? C'est quelque chose qui est endémique à Orléans? Il n'y a pas d'autres venelles dans d'autres villes?
À Orléans, il y en a beaucoup comparé aux autres villes, puisqu'on en dénombre 25,4 km sur 340 km de rue, donc ça fait à peu près 10%. Ce qui est assez considérable.
Est-ce que vous avez une explication au fait qu'on ait gardé autant de venelles?
Les venelles, elles prennent source vers 1823. Tout autour de la ville, il y avait des vignes. Et donc, à la base, c'était des chemins agricoles qui permettaient de desservir toutes ces parcelles. Et après, avec la révolution industrielle, l'urbanisation a gagné, le bâti s'est densifié. Et donc, on a formé des petits chemins entourés de maisons avec des jardins.
Vous les avez cartographiés, ces venelles? Vous avez un plan? Vous avez tout compté, tout comptabilisé? Ça vous a pris combien de temps de réaliser ce plan?
Ça m'a pris un certain temps, parce que déjà, il faut savoir où elles sont, les trouver. Alors, des fois, on les trouve par hasard, ou sinon, on regarde une carte. Et puis, au fur et à mesure, en regardant leur carte, on découvre qu'il y en a un peu partout dans Orléans. Chaque venelle a une âme particulière. Il y en a certaines qui sont très verdoyantes, avec beaucoup de jardins. D'autres avec plus de maisons, ou encore, il y en a même qui sont traversées par une voie ferrée, la venelle de la Pilonnerie dans le quartier Saint-Marc. Donc, à chaque fois, c'est des originalités.
Il y a 3 quartiers, me semble-t-il, où il y a beaucoup, beaucoup de venelles.
Il y a Saint-Marc, il y en a aussi à Saint-Vincent, à Dunois, quartier Madeleine, au Murlin, mais il y en a aussi également au sud de la Loire, à Saint-Marceau et à La Source. Ça fait depuis 2017 que je suis dans une venelle. Alors forcément, il faut adapter son mode de vie au fait qu'on se déplace à pied ou à vélo. Donc les ordures, il faut sortir ses poubelles sur la rue la plus proche. Quand il y a besoin de faire des chantiers, on prend des brouettes, des charrettes, un matériel un peu plus adapté qu'on fabrique des fois.
C'est-à-dire, vous avez fabriqué quoi?
Une charrette adaptée pile à la taille de la venelle pour transporter tous les matériaux ou les plantes, tout ce qu'on a besoin, les meubles, quand il y a un déménagement par exemple.
Ah oui, ça doit être un enfer quand il y a un déménagement. Quand vous avez aménagé, vous, du coup, il y a 5 ans, ça a dû durer une éternité?
Non, en s'y prenant petit à petit, on arrive à tout déplacer. Bon, il faut savoir s'adapter, mais bon, c'est l'atmosphère venelle. Dans les venelles, on est souvent très proches entre voisins, donc...
Et si vous connaissez si bien vos voisins, ils s'appellent comment alors?
Il y a Christine, Claude, Xavier, Estelle... Bon. Ici, c'est passion venelle.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur. Et nos podcasts. Un podcast ici Nord. Wikizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
De retour dans la famille, aujourd'hui, vous allez fêter un anniversaire. Donc, préparation de la journée avec une de vos matantes, la table est mise à 8h alors que les invités ils arrivent à midi. Vous savez que vous allez passer la matinée au garde à vous parce que, évidemment, c'est interdit de s'asseoir sur les chaises, ça va bousculer son organisation. J'ai déjà dit que la matante était souvent affectueuse, mais j'ai jamais dit que c'était pas une emmerdeuse. Alors qu'elle veille à la finition de sa table, elle pousse un cri « Ah !» Un gros minou collé sous un pied de chaise. Pas un gros chat, hein, un mouton. Elle se baisse pour le ramasser, elle se relève et elle dit « Eh, biche berloque, mi, j'ai encore rien bu !» Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider.
Je berloque, vous avez la définition dans ce merveilleux livre, le Wikizef illustré, toujours en vente pour la somme modique de 18€ au profit d'une association. La mienne.
Berloque, c'est vaciller. Le stade au-dessus, c'est balocher. Et le stade encore au-dessus, c'est avoir du vent dans les voiles. Tout dépend de la taille de la canette. Et la phrase complète, c'est « Eh ben, je berloque, mi, et j'ai encore rien bu !»
Définition.
C'est une manière imagée de demander un peu de soutien parce que chat tourne, elle voit des étoiles. Et aussi vous laisse présager une bonne journée d'anniversaire parce qu'elle précise bien « j'ai encore rien bu ». Ça signifie que ça va venir et que tout vient à qui sait déboucher une bouteille. Et c'est aussi pour vous dire qu'il est 8h du matin et que ceux qui berlent au castor-là, parce qu'ils ont déjà entamé les hostilités, ben je sais que des buveroles. Par contre, elle sait qu'à un moment dans la journée, si elle reberloque, elle saura pourquoi. Et elle dira « je crois que je suis un peu carvé, je vais arrêter les bulles ». Le sien, tu peux m'amener une bière ? Ça fait foncer. Que voulez-vous, comme dit l'adage, qui a bu, buvra.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Gascogne.
À Peyrorade, la maison Bartouille est spécialisée dans le saumon et le foie gras depuis 3 générations et a ouvert la maison du saumon. Notre guide, Pauline Bartouille.
C'est mon père, en fait, à la fin des années 90, qui a eu envie d'ouvrir une boutique dans nos ateliers et qui avait envie de communiquer sur le saumon de la Dour, son histoire, sa migration. La vocation de la maison du saumon, c'est réellement d'expliquer le territoire où l'on est. Donc on va suivre le parcours de migration du saumon de la Dour, parce que le saumon de la Dour, on ne se rend pas compte, mais en fait c'est fabuleux son épopée. Il reste à peu près une année, on va dire, en rivière, et quand il fait à peu près une vingtaine de centimètres, il part en mer, il va remonter les côtes françaises, Irlande, Écosse, Islande, et il va passer 3-4 ans dans la mer du Labrador, entre le Canada et le Groenland. Et quand l'appel de la reproduction se fait sentir, il fait exactement le chemin inverse et il vient se reproduire dans la rivière où il est né. C'est quand même une aventure assez incroyable que l'on explique en fait dans la maison du saumon.
Que vous expliquez à partir de quel support ?
Donc on a travaillé en fait, on a refait la maison du saumon il y a maintenant 2 ans. On a travaillé avec des scénographes qui ont notamment fait la Cité du Vin. Parce que nous, notre métier, c'est que, ben, vous savez, c'est de produire, on fait raconter nos histoires, mais justement, le mettre en forme, il fallait quand même quelqu'un qui dont c'était le métier. Donc, ils nous ont beaucoup aidés pour avoir des supports assez didactiques. Notre envie, c'est qu'on est des artisans, et des artisans, au fond, on travaille avec nos sens. C'est ça, pour moi, la vraie notion d'artisan. Donc, on voulait qu'à travers la visite, tous les sens des visiteurs soient un peu titillés, aussi bien visuels, sensoriels. Il y a un fumoir, on ouvre un fumoir, on sent la fumée. Voilà, on va le toucher. On travaille vraiment avec tous les sens lors de la visite. Une visite qui est uniquement guidée. On a du panneau explicatif, des vidéos, du toucher vraiment. Voilà, on va toucher les saumons. On a une table où en effet il y a des objets un peu cachés à trouver. Voilà, on a essayé de travailler un peu tous les supports. On a une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. On se promène aussi dans le jardin, on a reconstitué une petite barthe parce que les barthes, c'est très traditionnel des Landes. Et nous, on fume au bois d'aulne qui provient des barthes de la Dour. Et on trouvait important d'expliquer ce concept qui est assez connu quand même pour les locaux. Mais les gens extérieurs un peu des Landes et du Pays Basque ne connaissent pas du tout ce système qui est quand même assez incroyable et à préserver.
La maison du saumon est ouverte d'avril à octobre, 45 minutes de visite guidée, suivie d'une dégustation, mais disponible toute l'année pour des ateliers de groupe. Contactez simplement la maison du saumon à Peyrorade, recommandée par Ici Gascogne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Mayenne.
Je viens d'aller chercher ma fille à l'école et nous allons manger au restaurant, le Mixelli, qui est juste là, le restaurant de Bernay, les villages.
Ah, vous allez souvent au resto le midi, vous, alors
Moi, non, mais comme je suis en vacances, madame y va de temps en temps. Quoi. Il y va pas souvent, mais de temps en temps. Donc, comme je suis en vacances, j'en profite pour y aller avec elle.
Alors, elle a quel âge, votre fille ?
Margot, elle a 5 ans et demi.
Donc, Margot, et le papa, il s'appelle comment ?
Moi, je m'appelle Thomas.
Thomas. Et alors, Thomas, comment ça se fait que vous habitez ici à Bernay-les-Villages ?
Alors, je suis venu à Bernay-les-Villages parce que ma conjointe a ouvert une pension de chiens et on avait besoin de trouver une maison qui avait assez de terrain pour pouvoir ouvrir cette pension.
Vous avez trouvé votre bonheur, en fait, ici ?
Exactement. Ma conjointe a trouvé ce qu'il fallait. Et puis moi, c'est un petit village assez calme et tranquille. C'est exactement ce qu'il nous fallait.
Et donc, vous avez Margot comme fille, mais il y a un autre enfant qui vous attend au restaurant avec votre compagne, si
exactement.
J'ai bien compris.
Clémence, qui a 11 mois, bientôt un an, et qui est à la main, qui est juste à côté du restaurant. Donc, madame l'a récupéré pendant que moi, j'allais chercher la grande à l'école.
Mais attendez, il y a tout ici. Il y a l'école, il y a le restaurant, il y a une pension pour faire garder ses chiens chez vous, chez votre femme.
Voilà, il y a quelques commerces qui essaient de faire bouger. On a, par exemple, Hugo du Viveco, qui est assez connu sur les réseaux sociaux parce qu'il fait beaucoup de choses pour essayer de faire vivre la commune et la faire connaître. Donc, oui, c'est une commune qui demande qu'à se réveiller. Elle est un peu endormie actuellement et elle demande qu'à se réveiller.
Ouais, mais vous êtes là, vous, pour la réveiller aussi.
On essaye.
Belle journée.
Merci à vous aussi.
Vous écoutez Ici.
Elle est comme la lune, elle a comme un truc qui s'allume, elle a les plus beaux sentiments. J'ai le cœur en enclume, elle dit, viens au clair de la lune, comme quand j'étais enfant. Elles sont comme la lune, comme elle,
on n'en a qu'une, tu sais. Faut le savoir avant. Et moi, il y en a quelques-unes qui m'ont aimé, mais jamais aucune, non, ne m'a aimé autant.
Du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Itinéraire bis à Avallon cette semaine et j'ai choisi de m'arrêter aujourd'hui au Silo Rouge avec nous Guillaume Dallot. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Le Silo Rouge, c'est quoi ici à Avallon ?
Alors c'est un magasin de producteurs avant tout. Tous les produits ici présents sont produits ou transformés dans le département de l'Yonne ou le département limitrophe. Et donc on a une centaine de producteurs qui livrent le magasin régulièrement pour avoir des produits frais, des produits secs, de quoi faire les courses toutes les semaines.
Vous, vous avez fait connaissance avec ce magasin, le Silo Rouge, de quelle façon, Guillaume ?
Eh bien, ma femme, Adeline, est maraîchère depuis plus de 10 ans à Vaudeluny. Et donc, elle a créé ce magasin avec d'autres collègues en 2018, en mars 2018. Il y avait 9 associés à l'origine de ce magasin. Moi, j'étais sur une autre activité et je l'ai rejointe dans les jardins en 2020. Et donc, voilà, je fais partie maintenant de l'équipe du magasin du Silo Rouge.
Quelles sont les caractéristiques de ce magasin ?
On a vraiment souhaité mutualiser la commercialisation. En agriculture, c'est toujours un peu compliqué d'être à la fois à la production qui nous prend beaucoup de temps, d'énergie et de pouvoir valoriser nos produits sur des circuits courts et aller sur d'autres marchés que la filière longue plus classique.
Et puis, vous vous succédez à la tête du magasin, c'est-à-dire que si je viens le mardi et si je viens le mercredi, je ne verrai pas les mêmes têtes.
Exactement. L'objectif du magasin, c'est qu'il y a toujours un producteur en présence dans le magasin, donc aussi bien que ce soit sur l'aspect administratif ou sur l'aspect vente, ce qui fait qu'on se sépare, on se répartit les différentes demi-journées de vente, et donc il y a normalement toujours un membre de chaque structure des associés, donc souvent l'associé, qui est présent en vente avec notre équipe de deux salariés qui permet de faire toute la gestion du magasin au quotidien.
Ça vous apporte de quoi ? C'est de rencontrer vos clients ?
Eh ben, quand on a la tête baissée à travers dans nos activités, les légumes ou autres, parfois c'est un peu difficile quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut un peu trop souvent à nos goûts. Eh ben, le fait de rencontrer les gens, on sait pourquoi on fait ce métier. Ça donne un sens à ce qu'on fait, c'est valorisant pour nous d'avoir des retours généralement positifs et ça nous donne envie de retourner, de bêcher et puis de reproduire de nouveau et que ça soit à travers ce magasin nous permet effectivement d'avoir ce retour positif et ce qui est valorisant pour nous et donne un sens à ce qu'on fait au quotidien.
Est-ce qu'on peut parler de la philosophie de votre exploitation ?
Une des philosophies qui nous tient à cœur, c'est effectivement la source d'emploi que procure notre activité, que ça soit dans nos jardins, je travaille avec ma femme Adeline et également trois salariés, dont deux temps plein. Et au magasin, on a également deux temps plein, au magasin de producteurs Le Ciel Rouge. Et donc, on voit bien que l'argent que les gens dépensent en consommant nos légumes ou d'autres produits au Ciel Rouge permet de rester sur le territoire et de faire vivre l'emploi. Et ce qui nous tient particulièrement à cœur, d'avoir des gens habitant sur le territoire, travaillant sur le territoire pour des produits sains et de qualité.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Pays d'Auvergne.
Nous sommes en cœur de ville, à deux pas de l'hôtel de ville, et nous allons éveiller vos papilles aux saveurs vietnamiennes. Bonjour You.
Bonjour Lucie. Xin chào Lucie.
Ça veut dire bonjour.
Ouais, c'est ça. Xin chào.
Il y a un seul bonjour ou il y a plusieurs bonjours quand c'est l'après-midi ou quand c'est...
Le vietnamien, on dit xin chào, c'est un mot politesse. N'importe à quelle heure, on dit xin chào. Aussi bien le soir, aussi bien du matin.
Xin chào.
C'est ça.
Alors, You, vous êtes arrivé en France, vous étiez un jeune adolescent, vous aviez 15 ans seulement.
C'est ça, en 1975.
Vos grands-parents étaient issus d'un petit village du sud.
Du sud, dans le delta de Mekong. C'est 200 km de Saigon.
Comment s'appelle ce village?
Alors, ce village, c'est en la peine de Cao Nguyen.
Pourquoi est-ce que vos parents ont quitté le pays, ont venir s'installer en France?
Oui, parce que nous sommes nationales françaises et quand le Vietnam devient un pays indépendant, nous ne sommes plus les bienvenus et l'ambassade de France nous a demandé rapatriement.
Donc vous n'avez pas eu le choix, on vous a imposé de quitter le Vietnam.
C'est ça, c'est ça.
Et pourquoi l'Auvergne? Qui a décidé de la région?
On avait à Paris, dans les banlieues de Sarcelles, une vingtaine de familles, vietnamiens comme nous d'ailleurs, rapatriement. Il y a une assistance sociale qui s'occupe de notre groupe en question pour vous voir installer dans les villes.
Vous n'aviez pas l'idée d'ouvrir un restaurant au départ?
Non. Ils ont trouvé qu'à Clermont-Ferrand, il y avait Michelin qui embauchait, bien sûr, des étrangers sans parler un mot français pour faire le manutention.
Mais vous aviez 15 ans, You. À 15 ans, évidemment, on ne va pas commencer à travailler. Vous avez été un petit peu à l'école tout de même?
Que j'avais pas le choix. Il faut que j'aille trouver le travail pour pouvoir aider la famille. Car mon père, il est très âgé. Et comme je suis l'aîné de la famille, il fallait trouver un travail, aider les parents,
nourrir
la famille, aider les parents.
La pression reposait sur vous. Vous avez été travailler dans quoi, dans quel domaine?
Oui, j'ai travaillé dans des restaurations, alors, au Buffet Lagarde. C'était sous direction de M. Gors.
Quartier des Salins, ancienne gare routière.
C'est ça.
Ça va parler à pas mal de Clermontois, ça.
Oui, c'est ça. J'avais fait aussi travailler dans des wagons, les trams, ça s'appelle le tram Corail.
Votre travail, c'était de servir à manger aux
gens. C'est ça. Alors, comme j'avais 15 ans, je ne savais pas parler un mot français, et j'étais le plongeur. J'ai fait la vaisselle, aidé le cuisinier pour la salade, tout ça.
Oui.
Mais sinon, je n'étais pas cuisinier.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Brézizel.
Bijoux. Alors voilà un mot bien plus breton que vous ne pourriez le penser. Et le nom de famille Bizien sera au menu du jour de ce petit cours. Bijoux. Alors suite au vol au musée du Louvre, eh bien ce mot est redevenu star sur les réseaux sociaux et beaucoup ont par la même occasion découvert l'origine bretonne de ce mot. Bijoux, ça vient de bise. Bise, c'est le doigt en breton. Bisiette, au pluriel, bise, bisiette. Et bisou, avec un Z. au lieu du J, bon, comme un bisou si vous voulez, et bien c'est un des mots bretons servant à parler d'un anneau. Il y a deux mots, gualen ou bisou, mais ces deux mots servaient et servent toujours à parler d'un anneau, d'une alliance. On parle même de bisbisou ou biswalen pour l'annuaire, celui où l'on met un anneau pour montrer que notre cœur est pris. Donc bisou, c'est une bague ou un anneau. Et ce coup-ci, ce sont les Français qui sont inspirés de la langue bretonne et ont adopté un mot de notre vocabulaire. Bise, bisou, bise, bisou, l'annulaire, bisou, un anneau. Et au pluriel, c'est biseillère, pour des anneaux. Transition toute trouvée, vous allez voir, aujourd'hui, pour le patronyme bisien. Alors, par déduction, vous pensez, j'imagine, que bisien, bah, comme nom de famille, dérive de bise, le doigt. Eh ben, raté, pas du tout, c'est un faux ami. L'origine de bisien est très ancienne. Elle vient même des origines de la Bretagne armoricaine, Marpliche, car c'est une déformation de bud, B-U-D, en vieux breton, en gallois aussi, qui signifie victoire ou audace. Bisien est d'ailleurs attesté pour la première fois dans un manuscrit sous la forme de budven, le guerrier victorieux ou audacieux, donc un nom très ancien ramenant à une époque où les guerres étaient récurrentes entre les grandes familles bretonnes ou entre les Bretons et les Francs. Les Bisiens pourront donc se vanter de porter le nom d'un ancêtre particulièrement doué sur le champ de bataille par ses victoires ou son audace au combat. Je vous dis à demain, Ken Varhoas, car Varhoas, Vodeis Roas, eh ouais, demain, il fera jour.
Ici, local, musique et bonne humeur. Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Bourgogne.
Il s'appelle Frédéric Brand et ça fait maintenant 17 ans qu'il travaille à l'élaboration des créments, des 4 millions de bouteilles de créments de l'entreprise Louis Bouillot à Nuit-Saint-Georges. Il nous fait voir l'envers du décor. Mais d'abord, on s'équipe de chasubles orange fluo.
Sur le site, il y a une centaine de personnes qui travaillent sur le site. Et c'est un site classé IFS BRC. C'est-à-dire qu'on respecte des normes qualité et sécurité consommateur. Et donc, mettre des chasubles qui permettent l'identification des visiteurs avec un enregistrement bien adéquat.
Eh bien, allons-y, ouvrons cette porte.
Oui, on va y aller.
Oula!
Donc, en fait, ici, nous n'avons pas de cave enterrée. Les cuves font jusqu'à 7 mètres de haut.
Ah oui.
7 mètres de haut et une seule cuve représente le volume d'un petit domaine viticole. Ça représente environ 520 hectolitres de vin. Ici, nous avons dans cette cuverie-là 50 cuves différentes. Et cette diversité de cuves, cette quantité de cuves est importante parce qu'en Crémant de Bourgogne, nous sélectionnons les zones géographiques. Mais également, nous avons un grand travail au pressurage où nous séparons la cuvée et la taille que nous vinifions séparément. Et afin d'avoir une grande diversité de profils aromatiques qui vont nous servir de nos assemblages crémants futurs, nous avons besoin d'avoir une grande quantité de cuves qui vont pouvoir mettre en musique nos assemblages par la suite.
Donc malgré le fait qu'on soit dans un environnement plus ou moins industriel et gigantesque, on a quand même cette notion de terroir, c'est important de le rappeler.
C'est important. Si maintenant je mélange tout, parce que c'est effectivement une seule appellation que l'on vinifie, mais si je commence à tout mélanger pendant les vinifications, après les assemblages qu'on va faire n'auront plus aucun sens. Il faut vraiment respecter ces trois principes, donc le cépage, le terroir et le fractionnement au pressurage qui vont nous permettre justement d'accorder. Il faut savoir que Louis Bouillot a plus d'une dizaine d'assemblages différents et il faut que chacune de ces assemblages ait une personnalité bien précise avec son moment de dégustation et de plaisir propre. Et donc c'est grâce justement à ces diversités qu'on peut avoir ça.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Paris-Île-de-France.
À Aubervilliers, Sèvres ou encore Rue Fédère dans le 11e arrondissement de Paris, les baltos sont encore bien présents dans notre région et Thierry Boeuf nous en fait la cartographie au-delà bien sûr de nous raconter leur histoire. Voici la saga Bistrot de Paris.
Quel cocktail américain, c'est quoi ?
C'est un cocktail grillé avec une sauce américaine, tomate, échalote, une pointe de cognac, du vin blanc, c'est un peu relevé.
Un décarin !
Pâté, jambon, c'est du pain, rayette, gruyère, chantal, rose, bif, jambon de pays.
Eh ben tout ça, ça va aller dans la blanquette.
Bon appétit.
Fume, fume, cigarette. Cigarette, whisky et petite pépé, si vous les aimez bien roulés, papier à cigarette, OCB. Gitane de Gainsbourg, menthol extra cool de Françoise Sagan, ronde fumée, et puis un jour de smog, 1er janvier 2008, tout s'est évaporé, les volutes et brouillards au comptoir ont disparu.
On a fait une soirée pour que tout le monde fume, donc musique, et puis on a mangé, et on a tous fumé. Mon collaborateur et moi, on n'a jamais fumé de notre vie, donc on a fumé une gitane maïs. Plus jamais on fumera.
Alors les fumeurs étaient priés d'aller fumer aux terrasses des cafés, le plaisir devenant coupable. Mais encore aujourd'hui, les marques de cigarettes font toujours enseigne. À Paris comme en banlieue, il existe encore, par exemple, des Marini.
30 paquets de Marini.
Mais aussi des Rally, des Chiquito, des Nemrod et des Balto. 1930, la CEITA, Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes, propose aux patrons de café une aide financière. Des ameublements, des comptoirs, des terrasses. En contrepartie, l'établissement aura pour nom une marque de cigarettes ou de cigarillos. La puissante CEITA en rajoute une couche dans la presse populaire et la radio. Écoutez cette chanson publicitaire phénoménale de la marque Balto.
J'ai vu sur le paquet qu'il y a un bateau à voile. C'est à cause du bateau que c'est des bateaux qu'on les appelle. Mais non, mon gros bêta, pas des bateaux, mais des baltos. Des baltos, c'est un mot qui vient de Baltimore.
Balto de Baltimore, imparable voyage et exotisme au bout de sa cigarette rougeoyante. Et voilà pourquoi il existe encore une bonne vingtaine de Balto à Paris et en Ile-de-France, comme celui d'Aubervilliers ou de Sèvres. Idem pour le Nemrod, rue du Cherche-Midi dans le 6e. Tout pareil pour le Rallye, la cigarette qui arrive avant les autres et qui gagne, rue Faidherbe dans le 11e. Le Rallye, où au passage, Monsieur Philippe nous régale de délicieux choux farcis. Curiosité amusante, au 59 avenue de la Motte-Piquet, un restaurant a pour nom la Gauloise, tandis qu'à quelques dizaines de mètres, boulevard de Grenelle, une autre brasserie se nomme la Gitane.
Avec filtre ou sans filtre, les Gitanes Caporal vous apportent sans réserve le plaisir de fumer.
Décidément, beaucoup de cafés bistrot du bassin parisien ont succombé à la tentation. Après la cigarette, le jeu. Impressionnant le nombre d'établissements qui s'appellent le Vincennes, le Sulky ou le Longchamp. Témoin de la relation entre les bars PMU et le milieu mercantile des chevaux de course.
Pierre et Christine, ma femme, si tu savais ce qu'elle joue, elle y connaît rien. Mais elle y croit, et entre nous, ce qui m'épate, c'est qu'elle gagne aussi.
Va comprendre, Charles. Avec le PMU aujourd'hui, on joue comme on aime.
Oui, on pourrait largement faire une thèse universitaire sur les enseignes de bistrot, la poésie frise Le Bon Coin de ce cher Jean-Louis Brasse dans le 18e, sans oublier le mythique Au rendez-vous des sportifs chez Valzac, un cadre de la boxe dans le 15e. Mais la palme d'or revient à ce patron en Val-de-Marne qui avait baptisé son bistrot dans les années 50 ici, mieux qu'en face. En face se trouve la célèbre prison de Fresnes.
Ce qui ne freinera pas notre appétit pour autant, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Boeuf, Bistrot de Paris. Si vous avez aimé cette chronique, vous pouvez la partager avec vos proches depuis l'application Ici.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Héros.
On fait une petite pause à la poste.
Belle vie.
Vous êtes de la télévision ?
Non, c'est la radio.
Parle un peu plus fort, parce que j'ai un petit problème.
Problème d'audition ?
Oui, oui.
Virginie et vous ?
Avec Salomé, la technicienne du son, nous sommes devant le bureau de poste Béziers-Clémenceau. La double porte vitrée s'ouvre sur une grande pièce style loft. 250 mètres carrés avec du parquet neuf en bois clair et des espaces délimités par service. Tout est fait pour que les gens se sentent bien. Et c'est le cas. À 9h, il y a déjà du monde. Aujourd'hui, la poste est multi-activité. Courrier, mais aussi banque, forfait téléphone, assurance, service à la personne et achats en tout genre. Les gens font la queue pour un rendez-vous avec leur conseiller bancaire et passent devant des téléphones à vendre ou des paquets de bonbons. L'organisation des équipes et des locaux a donc beaucoup évolué. Ici, par exemple, on accueille le public qui veut poster du courrier, mais on ne fait plus le tri du courrier. Malgré les explications de Jean-Michel Thomas, le directeur du bureau, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre.
On est ce qu'on appelle grand public, c'est-à-dire qu'on reçoit des clients toute la journée pour des opérations bancaires, des opérations courrier-colis et plein de nouveaux services.
C'est drôle parce que je viens de poser une question, vous m'avez répondu, j'ai toujours pas compris, donc c'est vrai, ça va être long.
Oups.
Donc nous, on arrive ici, on peut poster notre lettre ici quand voilà. Même, avenue Clémenceau.
Donc on va vous montrer des boîtes aux lettres à l'intérieur et des petits chariots.
Ouais.
Et ça, ça part à midi une première fois ou plusieurs fois dans la matinée et dans la journée, d'accord. De l'autre côté. Et après, on ne s'occupe plus de rien.
D'accord, vous faites juste là, on vous le donne.
Voilà.
Ok, excusez-moi.
Et le matin, on a des structures pleines qui arrivent, je vais vous montrer où ça arrive. Allez, venez.
Ok. Donc là, on a un couloir avec à gauche plein de placards.
Salle de pause.
Salle de pause, avec une petite table, avec le petit frigo.
Voilà.
On doit avoir le petit micro. C'est très bien. Oui, mais c'est bien de se dire qu'effectivement, c'est pareil chez vous.
Je vous emmène dans le.
Et là, on ouvre la porte, c'est comme une porte avec un hublot, c'est avec un. Hop,
c'est pour éviter, comme la porte est ouverte tout le temps, c'est comme dans les cuisines en fin de compte. C'est une zone de passage, on faut absolument qu'on puisse voir s'il y a quelqu'un derrière.
Ah oui, bien d'accord. Sûr.
Ensuite, dans l'espace co, il y a quatre zones. Une zone pour les pros, une zone pour les courriers-colis, les gens qui viennent faire des affranchissements ou venir chercher une lettre, etc.
Et ça, c'est pour le coup, on est vraiment dans l'entrée. Là, les gens, ils font la queue ouais. Et hop, c'est le premier poste. Les gens, ils vont tout droit et il y a une dame qui est là pour affranchissement, etc.
Oui.
Ok.
Ensuite, ici, vous avez un relais pick-up. On flash sur cet automate et on peut retirer des colis en fin de compte.
Mais pour le coup, là, c'est comme devant tous les grandes surfaces.
Exactement.
Mais il y en a un aussi spécial poste.
Ouais.
Ça fait partie des questions que je me posais. Aujourd'hui, il y a la poste pour recevoir des colis, mais il y a Amazon, FedEx, machin. Est-ce que ça passe aussi par la poste ? C'est non. Des réseaux de vous ou c'est des réseaux parallèles ?
FedEx et puis Amazon, comme vous l'avez cité à l'instant, c'est des sociétés externes. Enfin, ça n'a rien à voir avec le groupe La Poste. Okay. Alors, on a des partenariats avec UPS, okay. Avec DHL.
C'est la particularité d'Amazon.
Guillaume Mancera de la communication.
C'est notre premier client, puisqu'aujourd'hui, les flux de colis passent par la Poste.
Ah d'accord.
Mais ouais. C'est aussi notre premier concurrent parce qu'ils développent eux-mêmes leur propre ligne logistique.
Ah, okay. Ouais.
Donc ça se passe très bien avec eux, hein. Mais est-ce que demain, avec les flux Amazon, est-ce qu'ils passeront toujours par la Poste ?
Pick-up, c'est la Poste.
Voilà. Nous, on veut développer les consignes pick-up.
Ah, bien sûr. On va continuer la visite. Mm-hmm. Allez.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur. Je parie que t'as bien ri de moi.
Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me payer. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer des froids. En constatant que mon appétit est loin d'être petit, petit. Tu peux prendre tes emballes, ton courrier avant que je te le donne. Ce qui
sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Provence.
Tout, vous saurez tout sur le...
Bicoulou,
c'était le motus à trouver dimanche sur motus.fr. Donc on va pas tourner autour du pot ni autour du bicouli. Le mot bicouli peut désigner effectivement le sexe d'un petit garçon, le petit oiseau, c'est le petit oiseau va sortir.
De toutes les couleurs.
Exactement.
Bico, ça.
Voilà. et par extension un sexe tout petit. Enfin, non, justement, pas par extension, parce que un bicouli en extension, pour le coup, ce serait plus un bicouli, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Un bicouli, c'est donc une kikounette, ou une kikette, ou un sexe tout rikiki.
Ouais.
Une rikiquette, si vous préférez.
Une rikiquette.
Voilà, il y a des bicoulis célèbres, comme celui du mannequin pisse, hein, vous savez, la fameuse statuette de Bruxelles, hein,
ouais,
qui représente un petit garçon, le mannequin, qui pisse dans une fontaine. Mm-hmm. Mais notre bicouli est bien d'origine provençale. L'oubicou, c'est le chevreau, une petite bique, une biquette, si vous voulez. Donc un bicouli, c'est encore plus petit qu'une biquette. Voilà. Mais c'est aussi un terme affectueux qui peut désigner un simple baiser. Hein, si quelqu'un vous dit, viens me faire le bicou, n'y voyez pas une proposition érotique, c'est juste un bisou.
Ah.
On peut dire ça en famille, voilà, ouais, c'est tout
tranquille. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes la dernière fois. Alors. Okay.
Avec ouais. Vous allez nous raconter tout ça, Philippe. Mais si on va au bout de la logique et au bout du bicouli,
ouais,
que trouve-t-on au bout du compte et du bicouli? Le bicou. Et c'est là qu'il faut être précis, car si les termes bicou et bicouli peuvent être synonymes, on peut ouais, aussi, d'un point de vue anatomique, hein, faire la différence entre le bicouli et le bicou qui en est l'extrémité. Car ce n'est pas tout. On utilise aussi les mots bicouli ou bicou pour désigner un petit truc, un petit machin, un petit objet qui dépasse. Hein. Vous allez me dire, oui, on est dans le même ordre d'idée, mais non, je ne parle pas là du sexe. Un petit, comment on dit, un petit bitonio. Voilà, hein, vous savez, voilà. Donc, quand on ne sait pas comment nommer un truc, là, un machin, une excroissance qui dépasse, on va dire appuie sur le bitonio, ben, on peut dire appuie sur le bicouli, ou appuie sur le bic, ouais, c'est un peu l'équivalent de tchitch ou pec, on a plein de mots comme ça. Mais, de ne pas confondre le bicou avec le bijou, hein. Au Louvre, les voleurs n'ont pas dérobé des bicou, mais des bijoux, hein. Et on en reparle demain, d'ailleurs, des bicou de famille. Des bijoux de famille. Enfin. Bicou et bicouli sont des mots très affectueux qu'on emploie à l'encontre d'un ami ou d'un enfant. Thierry Boffa, qu'on a longtemps entendu sur notre antenne, mais aussi André de Roca, m'appelait souvent comme ça. Oh, bicou, ça va, bien, vous vous rappelez, c'était son mot à Thierry. Et donc, mon bicouli aussi. On a dans Les Aventuriers du Chichi perdu du groupe Quartier Nord, Madame Pagalenti qui dit, mon beau bicouli, comme tu nous as manqué. Et ben, en parlant de chichi, vous voyez bien que le mot bicouli a bien d'autres sens et il faut donc bien le manier et savoir par quel bout le prendre. Je parle du mot, bien sûr.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Lorraine.
Ici Lorraine, Frédéric Meyer, Ici Matin.
Et Jérôme, ce mercredi matin, vous vous souvenez, c'est ça, oui?
Je me souviens d'une enquête qui avait été menée une énième fois pour la Lorraine au niveau touristique et j'ai participé à cette enquête dans laquelle on nous demandait plein de trucs. Alors par exemple, des mots pour qualifier la Lorraine, moi j'ai dit excellence, discrétion, une couleur aussi. Alors là on était nombreux à parler d'un jaune profond, un jaune un peu mirabelle bien mûr. Et puis alors quand on a parlé d'odeur, alors moi j'ai tout de suite sorti le fumé. Ben oui, j'avoue, il y a plus sexy pour attirer les touristes, mais moi... Quand je suis arrivé en Lorraine il y a 20 ans, au niveau culinaire, ce qui m'a marqué, c'est l'omniprésence du fumé. Ben oui, en Lorraine, on fume beaucoup. Ça tient à deux raisons, en fait. Hein. D'abord, l'esprit pratique des Lorrains, et notamment des Vosgiens, qui fument encore plus, si j'ose dire. On a une cheminée dans la maison, bon, elle turbine longtemps dans l'année, hein, on va pas se mentir, avec le climat lorrain. Alors, autant qu'elle serve à quelque chose. Et on imagine bien nos prédécesseurs se dire « bah tant qu'à avoir une cheminée et de la fumée dedans, bah autant qu'elle serve ». Et c'est vrai que la fumée conserve. C'est d'ailleurs son principal intérêt. La deuxième raison, je l'ai déjà un peu dit pour la météo, c'est que la fumée du feu, on l'allume en hiver dans un climat frais et souvent humide. Et du coup, ce climat humide, il nous empêchait autrefois de sécher les choses pour les conserver en hiver. La fumée, elle le pouvait. Bah oui, naturellement, la fumée sèche et donc elle conserve. Alors si on ajoute à ça qu'il faut aussi du sel quand on fait du fumé et que la Lorraine a toujours produit beaucoup de sel, ben on a tout pour faire des choses gourmandes sublimes. La fumée, le sel et surtout les bons produits qu'on met dedans. Et ce goût de fumée, si typiquement lorrain au fond, on le retrouve dans les lardons de nos quiches, dans la saucisse lorraine, dans le gendarme, dans l'andouille du Val d'Ajol. Il y ajoute finalement à nos produits une autre saveur depuis des lustres. Et d'ailleurs, en Lorraine, on a trois saveurs. On a le sucré, on a le salé et on a le fumé. Et on le retrouve partout, de la Moselle au Vosges, en passant par le Lunévillois, Nancy, le Toulois, Pont-à-Mousson, la Meuse, Neufchâteau. Le goût du fumé, c'est un point commun des Lorrains. Et ça, c'est fin bien.
On est toujours aussi gourmand, hein, Jérôme Prodhomme. Sucré, salé et fumé. Jérôme à l'honneur d'ailleurs, dans les trois plus, dans quelques minutes.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts.
Lui, il se promène avec un oiseau sur le bras comme si c'était le dernier accessoire à la mode. Il communique avec lui par des regards mystérieux, des petits gestes de ninja et parfois en agitant un bout de viande.
Je m'appelle Anthony, je suis fauconnier et j'interviens sur l'aéroport de Léquin.
Alors, ça veut dire qu'avec un faucon, vous effrayez, vous effarouchez les autres oiseaux pour éviter des accidents avec les avions. C'est un drôle de métier, ça.
C'est une passion de gosse transmise par mon père. Donc, c'est une entreprise familiale. Et voilà, on essaye de perdurer un savoir-faire millénaire et de l'adapter à notre époque.
Mais comment on devient fauconnier?
Alors, la fauconnerie, c'est une transmission de savoir entre fauconniers où, en fait, on va se rapprocher d'un maître fauconnier qui, lui, va nous transmettre son savoir. Donc, ça se fait sur plusieurs années, hein, c'est quelque chose de très long à apprendre. Toute une vie ne suffirait pas à maîtriser réellement la fauconnerie. Donc c'est un savoir-faire millénaire qu'on se transmet entre fauconniers ou entre aspirants fauconniers.
Mais à la base, c'était pour la chasse.
Alors la fauconnerie, en elle-même, c'est l'acte de chasse avec les rapaces. Maintenant, on en a fait une application, on va dire plus ou moins moderne, avec l'effarouchement, qui est nécessaire, on va dire, sur certaines zones pour vraiment faire fuir les populations d'animaux gênantes.
Et notamment sur les aéroports. Alors concrètement, comment ça marche sur l'aéroport?
Au niveau des avions ici, moi j'arrive avec mes oiseaux, on va partir tous les deux et avant chaque mouvement d'avion, que ce soit un décollage ou un atterrissage, on va réaliser donc une visite de piste où on va tourner sur la piste pour justement faire fuir toutes les populations d'animaux qui pourraient gêner sur la zone. Alors effectivement, l'effarouchement est essentiel sur les aéroports. La fauconnerie n'est pas adaptable partout. Prenez Charles de Gaulle avec des mouvements d'avion permanents et des 30 secondes entre chaque avion, malheureusement on peut pas intervenir. Mais sur des aéroports, on va dire un peu plus à taille humaine, on a un délai assez respectable, on va dire, entre chaque appareil, on peut intervenir.
Et pourquoi ils reviennent vers vous alors?
La faim.
Oui, c'est comme mon chien, quoi.
Tout se fait par rapport à la nourriture. Alors, c'est une histoire de récompense aussi. De temps en temps, on va bien les récompenser, de temps en temps, un peu moins. Mais effectivement, on peut dire qu'ils sont dressés. Maintenant, ça reste des oiseaux solitaires et on n'est pas à l'abri de fuite.
Le faucon effraie les oiseaux, mais il y a des captures quand même.
Il faut quand même qu'il y en ait de temps en temps, la peur elle a besoin d'être réinscrite. Donc quand il y a capture, ils prennent et mangent sur place. Donc nous, on doit aller sur la proie avec l'oiseau dessus pour venir récupérer.
Merci Anthony.
Moi, c'est ici, en tant que fauconnier à l'aéroport de Lille, que je fais perdurer le savoir-faire millénaire adapté à notre époque.
Ici, je viens comme je suis, sans fort, sans artifice. J'ai rien enfoui, tu devines, quand je suis bien bien triste, je vais pas faire l'actrice. Je suis un livre ouvert, j'éclate de rire sans retenir, sans manière. C'est comme ça qu'on m'a faite. Pas d'ego, pas de paillettes. On m'a appris à être honnête. Parfois les étoiles sont des comètes. Je veux bien être une étoile, si c'est pour allumer la nuit. Elle est si grande, cette seule. Elle est si petite, cette fille. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire, même si tout a changé. Appelle-moi quand tu pourras. Mon numéro n'a pas changé.